à la présentation du conférencier de ce soir, Thierry Ménissier. Il est né en 1964, il est spécialiste de philosophie politique, agrégé de philosophie, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales, en études politiques. Il est maître de conférence en ce moment de philosophie politique à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, membre de l'équipe de recherche philosophie, langage et cognition de cette université. Ses thèmes de recherche sont Machiavel et la pensée historico-politique florentine, les relations entre anciens et modernes dans la perspective du rapport entre la politique et la philosophie et l'histoire, et ses travaux les plus actuels portent sur les rapports entre la démocratie et la République, entendus comme des formes d'éthos collectif, ainsi que sur les notions de corruption et d'inconduite civique, thèmes qui sont, je pense, assez d'actualité. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, je ne cite pas tous, mais Machiavel, Le Prince, traduction, annotation et commentaires, chez Attier, Machiavel, la politique et l'histoire, enjeu philosophique, dans la collection Fondements de la politique, auprès de l'Université de France, l'idée de contrat social, la corruption, un concept philosophique et politique chez les anciens et les modernes, c'est un dossier d'articles de la revue Anabase. Donc je vais lui céder la parole pour 50 à 60 minutes sur le thème des humanités réactionnaires. Je descendrai parmi vous pour suivre la conférence, pour pouvoir l'entendre aussi bien ou aussi mal que vous. Et je reviendrai pour la série des questions, comme d'habitude. Voilà, merci.
Bonsoir. Et alors, réglons ce son. C'est bien. Alors, je remercie d'abord Yves Michaud pour cette invitation qui m'a permis de... Vous allez voir, de faire un travail, j'espère, en tout cas pour moi, original, quelque chose qui m'a demandé un peu vraiment d'effort sur moi, avec cette notion d'humanité réactionnaire. Alors, bien entendu, mon propos de ce soir vise à élucider cette notion d'humanité réactionnaire pour en construire le concept. Pour vous dire la perspective, pour indiquer la perspective qui est la mienne, ce que je voudrais examiner avec vous, c'est précisément, pour rebondir sur ce que j'ai entendu là deux, trois fois à propos du son, la valeur de la proposition, c'était mieux hier ou avant-hier. Donc les gens qui ont dit ça parlaient du son, cependant, les auteurs dont je vais m'occuper... Alors ? Alors, je reprends. Ça va mieux comme ça? Bon. Il y a un écho. Mais l'écho, je l'entends aussi, moi. Il est très, très gênant, d'ailleurs. Essayons. Ah, on me demande d'arrêter, on va changer de système. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux ? Merci, bravo. Bon, continuons alors. Il n'y a plus d'écho pour moi. Hein. Parfait. Alors, ce dont je voudrais m'entretenir avec vous, c'est de certains usages de la référence à l'exemplarité de l'Antiquité gréco-romaine. Ce que je voudrais examiner, ce sont les enjeux philosophiques de la référence au classique, dans le cas où il s'agit avec eux d'en appeler à la valeur indépassable du passé face à un présent désastreux et en regard d'un futur inquiétant. Le sentiment de la rupture historique amplifié par l'intuition de la faiblesse du présent, par comparaison avec la haute valeur du passé, est un tour d'esprit qu'on retrouve dans l'histoire des idées dans tous les secteurs de l'activité intellectuelle, en art, en philosophie, en morale, en politique, voire en théologie. Pour ma part, ainsi que l'a rappelé Yves Michaud, j'avais examiné les choses du point de vue de l'histoire des théories politiques, dans l'œuvre de Machiavel, en lui consacrant ma thèse de doctorat, et j'avais remarqué que l'humanisme apparent de Machiavel, le fait qu'il en appelle de manière extrêmement fréquente à l'autorité des anciens, ne permettait pas du tout aux penseurs florentins de refonder, comme il pensait l'entendre faire, pensait le faire dans un premier temps, refonder l'autorité politique. Un humanisme méthodologique ne permettait pas de fonder l'autorité qu'on cherchait à refonder. En quelque sorte, l'entreprise machiavélienne de détermination des conditions de la virtu, la vertu politique, ne pouvait se fonder sur l'émulation typiquement humaniste. J'ai découvert ensuite que, chez Montaigne, les choses n'en allaient pas autrement. Machiavel et Montaigne me semblent donc s'inscrire, enfin ouvrir la modernité, dans, enfin sous le signe de ce qu'on peut nommer un classicisme problématique. Puisque, vis-à-vis des maîtres incontestables du passé disparu, aucun conservatisme n'est possible. Dans mon intervention d'aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous d'une famille d'auteurs beaucoup plus contemporains qui a apporté une réponse radicale, je trouve, à la question « qu'est-ce qu'un classique ?». Alors, ces auteurs, que j'ai nommés humanistes réactionnaires, de manière extrêmement audacieuse, on discutera peut-être de cette audace, s'opposent à la conception d'une humanité en progrès. Ils s'attachent même à dénoncer le progressisme typique de la modernité. Leur antiprogressisme, nous allons le voir, les apparente même à une attitude que l'on peut identifier comme réactionnaire. Toutefois, ils ne sont pas tournés vers le passé ou vers la tradition en tant que telle. Ils ne se montrent pas passéistes. Ils se différencient, me semble-t-il, de ce fait, des simples traditionalistes, des conservateurs, et même des réactionnaires au sens politique du terme. Ces auteurs se tournent vers les œuvres du passé classique en désespoir de leur temps. Ils emploient même les ressources des classiques afin de critiquer la modernité, et s'ils ne caressent pas l'espoir naïf de sauver purement et simplement la modernité, ils laissent entendre que grâce aux classiques, une autre vie est possible. Ce que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est donc me livrer à une enquête sur un certain type d'esprit et examiner les conditions philosophiques d'une psychologie particulière, ce qui me semble adéquat dans le cycle des conférences de l'Université de tous les savoirs sur l'humanisme et les humanités aujourd'hui. Ces auteurs, pour lesquels j'emploie le terme d'humanité réactionnaire, ce sont Léo Strauss et Hannah Arendt. Deux auteurs, chacun le sait, extrêmement cultivés, qui expriment un point de vue comparable en considérant les classiques comme, pour employer une expression d'un auteur qui leur est cher, Thucydide, donc les classiques seraient le trésor pour toujours dont l'humanité moderne n'a pas su s'inspirer pour tracer son sillon dans son époque. Alors, il ne s'agit pas pour autant d'identifier ces deux auteurs, de les qualifier comme ces nouveaux réactionnaires attaqués par Daniel Lindenberg dans un livre récent, Le rappel à l'ordre, que vous avez probablement lu, et qui appelait nouveaux réactionnaires Maurice Lantec, Michel Houellebecq et, selon des modalités légèrement différentes, Philippe Muret. Lesquels auteurs attaquent également le présent de manière extrêmement dure, de manière extrêmement féroce. Ils le dénoncent comme stupide et inculte à partir d'une remise en cause, plus ou moins implicite, du postulat moderne, du primat de la raison. Remise en cause qui leur permet de fustiger les fautes de goût de la modernité. Ces fautes de goût sont la confiance dans le progrès technique et social, ou encore le culte de la démocratie. Ces nouveaux réactionnaires sont donc des anti-modernes ou même des anti-lumières. Il me semble que leur anti-modernisme constitue l'envers d'une forme de nihilisme dans lequel ils retrouvent Cioran ou Schopenhauer, donc des auteurs typiques de ce qu'on peut nommer la dépression des temps contemporains. Or, c'est justement contre cette déprime contemporaine que mes humanités réactionnaires, si vous me passez cette appropriation, entendent justement réagir. Et c'est sur le plan des idées politiques, comme je vais le montrer, que la distinction est la plus nette. Les nouveaux réactionnaires identifiés par Lindenberg entreprennent de jeter à bas le principe démocratique de l'égalité. Ils raillent la tendance moderne de l'égalisation des conditions, pour reprendre la formule tocquevillienne. Et leur position politique, à vrai dire plutôt idéologique que véritablement pratique, accouche d'un élitisme diffus, mais qui serait plus ou moins, qui est toujours plus ou moins supposé dans leurs livres, fondé en nature. Il existerait une différence de nature entre les individus, inégaux quant au talent et à l'intelligence, comme dans le rapport à la beauté et aux ressources de la haute culture. La nouvelle réaction correspond en réalité à une forme ancienne de mentalité, me semble-t-il. Forme ancienne que l'on pourrait nommer féodale, et qui consiste à inférioriser la masse. En démasquant finalement ses travers et les modes culturels. Il en va tout autrement pour les humanistes réactionnaires. Certes, ce sont des anti-modernes, car ils sont prévenus contre les dérives de la modernité, à savoir le progressisme, la technophilie sans mesure, le culte de l'État. Mais ces auteurs, je vais le montrer, ne sont nullement élitistes du point de vue social et encore moins, entre guillemets, biologique. Aussi, la question qui se pose au moment d'aborder plus précisément leurs pensées semble être celle-ci. Peut-on être réactionnaire sur le double plan du goût esthétique et des principes éducatifs et politiquement libéral au sens de anti-féodal, non-féodal, c'est-à-dire en acceptant finalement le bienfait des Lumières, le travail de la raison et de ce fait en reconnaissant à la condition humaine une forme d'égalité. Alors, il peut paraître délicat, voire hors de propos, de rapprocher Léo Strauss et Hannah Arendt. Beaucoup de choses les différenciaient, le tempérament, mais aussi les choix politiques. On sait, on connaît l'hostilité d'Arendt à l'égard de Strauss. On sait qu'elle est ancienne, cette hostilité, puisqu'elle datait de l'époque où ils étaient tous les deux étudiants en Allemagne. Ce qui les rapproche, bien entendu, c'est leur condition mutuelle, leur destin, si l'on veut, de penseurs juifs allemands exilés en Europe, puis aux USA, leur carrière intellectuelle, universitaire, dans ce pays dans lequel l'un et l'autre, à la différence de nombreux compatriotes, ont décidé de rester. Alors, je ne sais pas pour Léo Strauss, mais Arendt avait pris la nationalité américaine. Du point de vue intellectuel, d'autre part, une certaine filiation les rapproche. Strauss et Arendt peuvent aisément passer pour des heideggeriens, ou plutôt des post-heideggeriens, comme je vais le montrer tout à l'heure, en référence à Martin Heidegger, qu'ils ont tous les deux fréquenté comme étudiants, et de manière un peu plus longue pour Arendt. Alors, Heidegger est lui-même, finalement, promoteur d'une posture philosophique dans le rapport aux anciens qui est tout à fait typique. Et il y a quelque chose, incontestablement, chez Strauss et Arendt, je vais l'établir un peu plus longuement dans les minutes qui viennent, il y a quelque chose de cette posture heideggerienne. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur les relations entre Strauss, Arendt et Heidegger. Simplement, pour prendre les choses avec un peu de recul, il me semble qu'on peut souligner le fait que Strauss et Arendt et Heidegger lui-même sont tous des auteurs marqués par une découverte double qui avait été faite avant par Nietzsche et par Tocqueville. Cette double découverte philosophique typique de l'époque contemporaine, qui distingue la modernité de l'époque contemporaine du point de vue de l'histoire des idées philosophiques et politiques, à savoir, premièrement, la découverte nietzschéenne selon laquelle Dieu est mort, c'est-à-dire que nulle transcendance ne vient plus assurer les codes axiologiques, et d'autre part, la découverte tocquevillienne, c'est que l'homme marche dans les ténèbres du fait que le passé n'éclaire plus l'avenir. Le fil de la tradition est rompu. Alors, l'homme contemporain doit donc, pour Strauss, pour Arendt, mais aussi pour Heidegger, l'homme contemporain doit se vouer à la contingence que sa propre condition impose à ses choix. C'est dans un tel contexte intellectuel qu'est survenu ce que les deux auteurs ont vécu à la fois comme la catastrophe allemande et comme une rupture décisive dans leur existence personnelle. L'avènement du national-socialisme, qui à la fois a déclenché la Seconde Guerre mondiale et provoqué la mise en œuvre d'un plan de destruction inouï, jamais connu, de l'humanité, sous la forme des camps de concentration et d'extermination, ce sont des événements qui ont conduit Arendt et Strauss, je l'ai dit, à l'exil, mais qui les ont conduits aussi à engager, chacun de leur côté, une réflexion philosophique de fond sur la modernité. On peut se demander ce qu'aurait été le destin intellectuel d'Arendt et de Strauss, deux brillants jeunes gens, de très très brillants étudiants, sans les vicissitudes du siècle. On peut considérer que les deux premiers ouvrages de Strauss portent sur le statut de la religion chez Spinoza et Hobbes. Et donc, sa première vague théorique s'achève en 1952 sur son texte fameux, sur les articles qui composent le livre fameux qui traite des relations entre la persécution et l'âge d'écrire du Moyen-Âge à l'époque classique. De son côté, je vous le rappelle, Arendt avait consacré sa thèse au concept d'amour chez saint Augustin. Et un article de 1946 atteste de son intérêt pour la philosophie de l'existence. Par exemple pour Sartre, pour Heidegger, mais aussi pour Camus par exemple, ou pour Karl Jaspers, son ami et son maître. Mais leurs œuvres majeures sont à venir après cette première vague, et ces œuvres concernent la critique de la modernité. Une critique inspirée par la catastrophe allemande, une critique dans laquelle celle-ci, la catastrophe allemande, est plutôt considérée comme un symptôme, le symptôme du malaise de la modernité. Au fond, Strauss et Arendt reproduisent le geste d'un auteur, dont j'ai déjà mentionné le nom, et qu'ils sont amenés à beaucoup lire, à beaucoup méditer, Thucydide. En effet, l'auteur de la guerre du Péloponnèse considérait que le conflit, la déflagration mondiale entre la coalition athénienne et la coalition spartiate était le signe d'une maladie plus profonde, selon une métaphore permanente dans son œuvre, maladie de la civilisation grecque qui, du fait des excès de la démocratie, finalement, allait vers une sorte de destruction finale. Eh bien, de même, Strauss et Arendt interprètent la catastrophe allemande comme le signe le plus récent et le plus dramatique d'une crise plus profonde qui affecte la modernité. Cette période, cette époque, dans laquelle l'humanité a entrepris de vivre selon la raison, conformément à la raison et confiante dans les progrès de la science et de la technique. Pour Arendt, comme pour Strauss, la crise ne s'est pas achevée avec la fin du second conflit mondial. Elle continue de se développer sous les formes apparentes du retour de la paix. Et leurs œuvres, à partir des années 50, sont vouées, ici et là, à circonscrire les limites de cette crise et à diagnostiquer des types de remèdes possibles. Alors, je ne vais pas, évidemment, me livrer à une exégèse savante de la pensée de Strauss et d'Arendt. Simplement, quelques titres qui indiquent les orientations rapidement prises par leur pensée. Chacun sait qu'Arendt écrit, enfin, publie en 1951 les origines du totalitarisme et que, par l'analyse du phénomène complexe du totalitarisme, elle engage les prémices d'une critique de la modernité qui va permettre la redécouverte des auteurs classiques gréco-romains dans le livre de 1956, Between Past and Future, traduit en français par La crise de la culture, et aussi en 1958, dans l'autre livre où s'opère cette redécouverte, The Human Condition, traduit en français par Condition de l'homme moderne. En effet, la condition humaine, le titre était déjà pris en France. Alors, Strauss publie en 1953 Natural Rights and History, traduit par Droit naturel et histoire, ouvrage suivi par les pensées sur Machiavel et par les articles très importants réunis dans le volume qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie politique ?» 1959. Et à l'issue de cette seconde vague de sa pensée, on peut remarquer que l'œuvre de Strauss ne se compose plus que d'études de philosophes anciens. 1963, « La cité et l'homme », 1966, « Socrate et Aristophane », 1968, « Le libéralisme ancien et moderne », enfin, 1972, le Socrate de Xénophon. Donc, on passe de la critique de la modernité à la redécouverte des classiques. Quelle évolution se produit chez ces deux philosophes dont les œuvres ne se répondent pas? Ça qui est très intéressant. Ils se sont connus jeunes, ils ne s'adressent plus la parole, je ne sais même pas s'ils se lisent. Simplement, une communauté de destin, et mieux encore, un cheminement intellectuel parallèle, les conduit de la critique de la modernité à la redécouverte des classiques. Il me semble que cette évolution est comparable et qu'il est intéressant de la faire parler. Le constat de la catastrophe allemande a été réfléchi à la lumière des possibilités apparemment offertes par le monde libre, au sein duquel ils se sont installés et sont demeurés après-guerre. Or, ces possibilités se sont révélées des impasses. Le monde libre est comme vicié. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la liberté. Sur ce point, Arendt et Strauss ne sont pas très éloignés des théoriciens de l'école de Francfort, un temps eux-mêmes réfugiés aux USA, Adorno-Horkheimer par exemple. Mais l'issue de leur critique de la modernité est bien différente. Elle ne débouche pas sur la constitution d'un savoir de type sociologique, même critique. Mais elle engage une réflexion de type métaphysique sur la situation de l'homme par rapport à son histoire. Et vous allez voir que le sens de réactionnaire dans humanité réactionnaire est un sens philosophique. Ça engage la position de l'homme vis-à-vis de son histoire. Alors on peut procéder, on retrouve Heidegger, on peut remarquer que ces deux auteurs procèdent à un geste heideggerien dans le retour au classique après la critique de la modernité, qui serait la désoccultation du passé en lisant les théories politiques, semblable à cette désoccultation opérée par Heidegger, consciemment, à propos de la métaphysique. Pour Heidegger, l'histoire de la métaphysique cachait davantage qu'elle ne disait. Et l'histoire intellectuelle de la modernité, finalement, taisait le plus important. Il fallait revenir en amont, revenir avant Platon, réinterpréter le geste de Platon. Eh bien, Strauss et Arendt, me semble-t-il, procèdent au même geste, mais sur un terrain volontairement délaissé par Heidegger, qui est le terrain de la philosophie politique. Donc Arendt et Strauss sont, en un certain sens, des Heideggeriens, en un autre, des post-Heideggeriens. S'ils considèrent que l'auteur d'Être et Temps est d'un des plus grands philosophes de leur époque, ils considèrent qu'il a enfermé la pensée en elle-même. Finalement, Heidegger est un auteur qui participe du nihilisme moderne. Alors, il est très difficile, je vous l'ai dit, d'entrer dans les détails dans cette conférence de ce soir, mais simplement j'aimerais en dire un peu davantage sur les deux auteurs, en vous proposant, dans un premier moment, de restituer brièvement la pensée de Strauss, puis celle d'Arendt. Pour Strauss, en reprenant le thème du secret caché par l'histoire, eh bien, la philosophie politique des modernes, dans sa tradition, cache un secret que son livre « Droit naturel et histoire », qui est un des plus importants, me semble-t-il, disons, de la philosophie politique contemporaine, s'emploie à révéler. La philosophie politique des modernes repose sur la ruine de la notion de droit naturel. Or, cette notion constituait dans l'Antiquité et au Moyen-Âge l'armature même de la pensée pratique, de la pensée éthique, de la pensée politique. C'est en fonction d'un oubli de la nature que la modernité en est venue à mettre en œuvre une forme de pensée rationnelle, donc le rationalisme, par exemple, qu'on peut voir chez Descartes, chez Kant, chez tous les philosophes et tous les scientifiques de la modernité. Eh bien, la modernité, en oubliant la nature, en est venue à mettre en œuvre une forme de pensée rationnelle, se croyant capable, se disant capable de maîtriser intégralement la nature. Au fond, ce que dit Strauss, c'est que la philosophie s'est transformée en idéologie, c'est-à-dire en un discours d'action qui décrit le monde et la nature dans le but de les changer et non de comprendre l'indépassable situation de l'homme en regard de sa nature et des fins que la nature en général lui assigne. La philosophie, dit Strauss, en agissant de la sorte, a délaissé le paradigme de la nature au profit du paradigme de l'histoire. Et ce faisant, elle est devenue discours d'accompagnement de ce qui change. Elle est devenue volonté de donner des raisons au changement. La tension ancienne entre la philosophie et la cité a disparu. La philosophie s'est appliquée, à la manière d'une science rationnelle, au problème de la cité. On a déployé des moyens gigantesques pour exploiter, disons, la matière première qu'était la nature, dans la perspective d'une économie d'abondance. Et le geste des modernes, donc, a amoindri la tension fondamentale qui existe toujours entre l'homme et la nature. Et cette tension, dit Strauss, la notion ancienne de droit naturel permettait d'en donner une médiation. C'est un intermédiaire, cette notion de droit naturel. Alors, pour résumer, il y a au moins trois erreurs fondamentales de la modernité. Il y a une erreur sur les fins de la philosophie. Les modernes estiment en effet que la philosophie pourrait fournir à l'homme des solutions immédiates pour ses problèmes. Pour la philosophie moderne, estime Strauss, l'existence fait problème et la raison peut solutionner ces problèmes. Au fond, on pourrait dire que, pour Strauss, toute la philosophie moderne est existentialiste. Alors, elle est existentialiste et progressiste, la philosophie moderne. En effet, on se met à croire, dans la modernité, que la philosophie peut assurer à l'homme un avenir substantiellement plus agréable que la condition que l'homme a toujours dû vivre et affronter. D'où une erreur à propos de l'histoire de la philosophie. Les modernes estiment toujours Strauss, croient, ont toujours la conviction qu'ils sont susceptibles de connaître un auteur du passé, mieux qu'il s'est connu lui-même. Tout se passe pour les modernes, dit Strauss, comme si le fait de se situer chronologiquement après cet auteur, après un auteur du passé, un grec, un romain, un médiéval, eh bien, engendrait la possibilité de se croire intellectuellement supérieur à lui. En réalité, un grand auteur n'est jamais dépassé par les commentateurs qui viennent après lui. On doit s'adresser à lui comme s'il était toujours vivant. Par ailleurs, Strauss admet qu'une grande pensée n'est jamais totalement de son temps. Une grande pensée n'est jamais située totalement, historiquement et chronologiquement. Elle affronte, si elle est une grande pensée, des dilemmes qui se posent structurellement, éternellement, à la nature humaine. Strauss écrit dans les Pensées sur Machiavel, « Nous l'affirmons ici, il y a des alternatives fondamentales, elles sont les constantes de l'humanité. » Un grand auteur perçoit ces constantes et ces dilemmes. D'où la troisième erreur, qui est la plus complexe, la plus analysée par Strauss, par conséquent, les modernes commettent une erreur en termes de régime de la vérité. Erreur qui prend elle-même des formes variées. D'abord, la pensée moderne est nécessairement relativiste. Elle ne voit pas les choses dans l'absolu comme elle devrait les voir. Par suite, elle se montre sceptique quant aux possibilités offertes à la raison d'apercevoir, disons, ces dilemmes éternels. Enfin, alors de ce point de vue, on pourrait le développer, je ne le ferai pas, l'adversaire principal de Strauss dans droit naturel et histoire, c'est Max Weber, qui est représenté comme le symbole, comme finalement l'auteur majeur des sciences humaines et sociales. Strauss réagit à la pensée sociologique en particulier, en montrant que les sciences sociales sont en quelque sorte, elles-mêmes victimes du mouvement rationaliste moderne, mais elles sont coupables, de toute façon, d'avoir considéré que tout énoncé, entre guillemets, scientifique, portant sur la réalité sociale et morale, est relatif à des conditions, par exemple, de mesure, à des conditions d'énonciation, à des conditions chronologiques. Voilà. Surtout, les sciences humaines et sociales, la science sociale dans sa généralité, est coupable d'un très grave choix, c'est de considérer que la connaissance de la réalité sociale et morale peut relever de la neutralité axiologique. Tout se passe, dit Strauss, comme s'il nous avait fait croire que, au fond, on pouvait connaître objectivement les raisons morales ou finalement les dispositions sociales des humains. Alors que ce que doit faire un authentique rationalisme, c'est d'entrer sur le terrain des valeurs, en dénonçant l'illusion ou la prétention à la neutralité axiologique. Au fond, Max Weber veut établir que la raison est véritablement scientifique quand elle ne porte pas de jugement de valeur et qu'elle s'en tient au jugement de fait. Eh bien, Léo Strauss estime que c'est un signe de faiblesse et de lâcheté. Il faut au contraire entrer sur le terrain des valeurs et discuter des valeurs. Alors, c'est la dernière variante de cette erreur sur les régimes de la vérité, cette illusion structurelle de la modernité sur le régime de la vérité, est comprise dans le terme d'historicisme. La pensée moderne est historiciste. Léo Strauss entend par cette notion complexe la disposition d'esprit qui revient à considérer que les problèmes se posent toujours non en eux-mêmes, mais en regard de l'histoire dans laquelle ils apparaissent. Strauss écrit que l'historicisme, je cite, est l'adversaire le plus sérieux de la philosophie politique. Et l'historiciste le plus typique, c'est Heidegger lui-même, qui finalement s'est plié par ses engagements diffus au monde tel qu'il était. Alors qu'en tant que philosophe, il aurait dû assumer une position beaucoup plus brutale, beaucoup plus radicale de résistance. Alors, l'historicisme repose sur une étrange contradiction. La voici. D'une part, il accepte qu'il existe une histoire, Mais il ne comprend pas que cette histoire porte l'humanité. Il est en quelque sorte un pur factualisme qui conduit à une dissolution de la raison dans les faits. Ce qui fait que, en analysant les choses de cette manière, il me semble que Léo Strauss est un continuateur du diagnostic nietzschéen qui portait sur le nihilisme. On s'en rend compte, par exemple, avec un texte de jeunesse de 1941 qui s'appelle « Sur le nihilisme allemand », qui est un des premiers textes, une conférence prononcée par Strauss en anglais, hein, quand il arrive en Angleterre. Alors, au fond, pour résumer le propos sur Strauss, on peut dire qu'il se livre à une critique radicale de la modernité dans les formes d'une histoire des doctrines philosophiques qu'elle a connue. Quand on lit Léo Strauss, on a l'impression d'avoir affaire à un simple commentateur. En réalité, Strauss déploie dans sa lecture de l'histoire de la philosophie un goût pour une authentique philosophie qui ne relève pas, disons, d'un amour des antiquités, mais bel et bien d'une critique philosophique, d'ailleurs aussi radicale dans ses intentions que féroce dans ses modes opératoires. Strauss est un des auteurs les plus féroces en philosophie qu'on puisse lire. À cet égard, je crois qu'il écrit aussi bien une contre-histoire qu'une anti-histoire de la philosophie. Alors, d'une part, pour la contre-histoire, sur le plan méthodologique, Strauss se livre à une subversion de la lecture traditionnellement admise en philosophie politique. Il n'est que de regarder l'ordre des chapitres de droit naturel et histoire. Il renverse complètement, au fond, les leçons traditionnelles sur le fait que Locke a inventé le libéralisme, qui correspond à un progrès de la raison, etc. Voilà. Je vous renvoie à l'ouvrage. Sur le plan thématique, Strauss entreprend ce qu'on peut identifier comme une anti-histoire de la philosophie, puisqu'aux antipodes de l'existentialisme des modernes, sa redécouverte des anciens entend montrer que l'homme n'est pas un être historique, si l'on entend par là, avec Hegel, le fait que les vicissitudes éprouvées par la condition humaine lui permettraient, disons, à l'espèce de se compléter et de modifier son essence. Le projet straussien, finalement, est une anti-histoire, puisqu'il atteste de la continuelle présence des classiques à l'esprit des hommes véritablement éclairés, et au fond véritablement rationnels ou rationalistes. Alors, on peut parler d'une certaine manière d'un conservatisme philosophique pour Léo Strauss. C'est ce que j'essaie de montrer dans un article à paraître bientôt. Il y a un conservatisme philosophique de Strauss qui s'appuie sur la reconnaissance de la pertinence des classiques. Nous allons y revenir dans quelques minutes. J'aimerais maintenant, tout aussi brièvement, vous m'excuserez, m'intéresser à Hannah Arendt. Pour Arendt, selon des voies très différentes, la situation de l'homme contemporain, après l'expérience du totalitarisme, donne à penser sur sa condition. Alors, l'expérience du totalitarisme culmine, dit Arendt, dans le phénomène des camps de concentration, puisque se joue dans les camps de concentration la tentative de transformer la nature humaine. Je vous renvoie aux deux derniers chapitres du troisième volume des origines du totalitarisme, hein, qui s'appelle le totalitarisme, ou dans une traduction un peu plus ancienne, le système totalitaire. En particulier, l'avant-dernier chapitre insiste sur la contradiction qu'il y a à penser une animalisation de l'homme, une dénaturation de l'homme qui serait une animalisation. Contradiction en effet parce que si s'opère effectivement une réduction à l'animalité dans les camps de concentration, eh bien, cette réduction est totalement contradictoire avec les caractères distinctifs de l'humanité. L'animal produit par le camp de concentration n'est même pas un animal, et en tout cas, c'est pas un humain. Les caractères proprement humains sont niés, d'où le caractère d'irréalité folle, dit Arendt, du camp de concentration comme machine à produire de l'animalité ou du non-humain. Alors, je cite Arendt, elle écrit ainsi que les hommes, dans la mesure où ils sont plus que la réaction animale et que l'accomplissement des fonctions, sont entièrement superflus pour les régimes totalitaires, hein, en analysant l'expérience du camp de concentration. Le totalitarisme ne tend pas vers un règne despotique sur les hommes, mais vers un système dans lequel les hommes sont superflus. Alors, le totalitarisme est à la fois la pire des tyrannies et il se tient au-delà de toute tyrannie classique, pour Hannah Arendt. En effet, la terreur totalitaire, maintenant, si on concentre la lecture sur le dernier chapitre de l'ouvrage, vous savez probablement que le dernier chapitre des origines du totalitarisme est un texte qui date de 1958, qui a été ajouté dans la dernière version de l'ouvrage et qui a demandé à Arendt énormément de travail. Et dans ce chapitre, hein, si on restitue les trois volumes des origines du totalitarisme, c'est le chapitre 13, dans ce dernier chapitre, Arendt engage sa critique de la modernité. Elle passe de l'analyse du phénomène totalitaire, cette patiente reconstruction, à la critique de la modernité. Elle y montre que ce qui est produit par le système totalitaire, dans sa généralité, par la société totalitaire, pas seulement par le camp de concentration, c'est quelque chose qu'on traduit en français par la désolation. Les mots employés par Arendt, hein, qui à la fois s'expriment en allemand et en anglais, sont en allemand « Verlassenheit » et en anglais « loneliness ». On peut traduire ces termes par « abandon » ou par « déréliction ». On s'aperçoit qu'Arendt délaisse progressivement l'analyse politologique pour entrer sur le terrain philosophique, avec la création de ce concept qui relève d'une phénoménologie des modes d'être, une phénoménologie donc du mode d'être dégénéré produit par le totalitarisme. Cette notion de désolation, on peut la traduire rapidement comme la perte du monde. Le monde, chez Hannah Arendt, là encore, dans la tradition phénoménologique dans laquelle elle s'inscrit, c'est un concept cadre qui permet de doter la condition humaine, du fait des relations que chaque homme entretient avec ses semblables et avec son milieu, de particularités non animales. Les lecteurs d'Arendt, parmi vous, savent que c'est parmi ces particularités, on doit identifier d'abord le fait de disposer d'un langage qui nous adresse les uns aux autres. Les individus désolés, victimes de la Verlassenheit, la loneliness, ne sont pas seulement isolés par le totalitarisme et par là rendus politiquement impuissants. Ils font l'expérience de la non-appartenance au monde. Ils sont déracinés. Ils sont privés de la possibilité double d'être eux-mêmes et d'être avec les autres. Arendt écrit « Le moi et le monde, la faculté de penser et de faire une expérience sont perdus en même temps. » Alors, l'analyse arendtienne procède en expliquant, notamment dans « The Human Condition », que les schèmes qui se cristallisent dans les sociétés totalitaires existent de manière non cristallisée dans les sociétés démocratiques, en particulier dans la société américaine qu'elle a pu observer. Ces schèmes y persistent en puissance et ils peuvent être actualisés. Alors je ne vais pas développer, mais enfin on sait que le thème du travail chez Arendt, labor, constitue un de ces schèmes. Le travail que la modernité a érigé non pas seulement en fait central de la vie sociale, mais en valeur. Hein, une vie digne d'intérêt, digne de consistance, est une vie au travail. C'est ce que disent Hegel puis Marx, pour résumer. Eh bien, Arendt estime que ce schème du travail, enfin cette thématique très forte, cette fonction du travail, est en fait un schème qui peut être activé dans un sens totalitaire. La société du travail est une société potentiellement totalitaire. Et au fond, on retrouve les analyses du camp de concentration ici. Alors, dans le travail, en effet, l'homme est sans cesse assigné aux besoins, dit Arendt. Hein, même si le travail se transforme en œuvre, work. C'est-à-dire, au fond, le travail s'accompagne de l'artisanat, des arts et métiers. Eh bien, malgré cela, au fond, dans le travail, les forces de l'homme sont soumises à la préservation de la nature. Alors, fondamentalement, il faut se tourner donc pour comprendre une alternative à cette modernité qui a engendré à l'époque contemporaine le système totalitaire et les camps de concentration. Il faut se tourner vers un monde qui était le monde d'avant l'idéologie du travail. Ce monde, c'est celui des Grecs et des Romains. Les Grecs et les Romains vivaient dans un monde qui connaissait bien sûr la fonction de production, mais cette fonction de production n'était pas une valeur. C'était pas, si vous voulez, une activité sociale paradigmatique. Arendt revient donc à la distinction faite par Aristote en son temps entre poiesis et praxis. La poiesis désigne une activité où l'on produit quelque chose. Par exemple, le travail est une poiesis. La praxis désigne une activité où on ne produit rien, où finalement la finalité de l'activité, c'est l'activité elle-même. La praxis la plus importante, qu'Arendt appelle action, l'action, dans The Human Condition, c'est l'activité politique. Dans l'activité politique, par le biais de la parole, nous dialectisons nos différends, nous essayons de faire un monde commun, dit Arendt, en reprenant une thématique républicaine, elle relie Machiavel comme ça, Montesquieu, les constituants américains, par cela, donc, nous essayons d'exister ensemble dans un univers régi par des lois écrites. Alors, Voilà pour ce résumé que je voulais donc vous livrer des deux auteurs. Et j'aimerais maintenant, il y aurait tant à dire et j'avais tant préparé, mais j'aimerais maintenant me concentrer dans un deuxième moment sur les conséquences de ce retour au classique. Ces conséquences, je l'ai dit tout à l'heure en démarquant mes auteurs de leur maître Heidegger, concernent la pensée pratique, la philosophie pratique, délaissée par Heidegger au profit de la pure spéculation. En tout cas, c'est ce que Arendt et Strauss reprochent à Heidegger. Cette philosophie pratique concerne la politique, ou plutôt les enjeux philosophiques de la politique, ce ne sont pas des auteurs immédiatement politiques, plutôt des théoriciens, des philosophes. Mais en tout cas, il y a une question centrale, par ailleurs, très importante, c'est la question de l'éducation. La connaissance des classiques, je vais préciser un petit peu les choses dans une minute, joue pour Arendt et Strauss le rôle capital d'un révélateur philosophique pour saisir les travers de la modernité. Mais une fois qu'on a dit cela, arrive cette question de l'éducation sur le devant de la scène théorique, du fait que les modernes se sont complètement trompés en matière d'éducation. Ils ont en effet, depuis finalement le début de la société démocratique, eu tendance à concevoir le processus éducatif comme l'acquisition de compétences dans le but d'insérer l'enfant ou l'adolescent dans le monde social. Or, ce qu'il faudrait plutôt penser, selon Arendt et Strauss, ce sont plutôt les modalités d'une nouvelle culture générale, liberal education, culture générale, permettant à l'adolescent, au lieu de s'insérer dans le monde, en acquérant des compétences, de se détacher suffisamment du monde dans lequel il évolue, afin de pouvoir en juger. La vertu des classiques consiste précisément à doter l'individu de critères de jugement qui n'enferment pas l'individu dans son environnement social. Alors, quelle classique choisissent Arendt et Strauss? Ils choisissent les Grecs et les Romains, et les Grecs plus particulièrement pour Strauss, jusqu'aux médiévaux, qui sont, si vous voulez, les tenants non pas d'une culture particulière, bien sûr c'est la culture entre guillemets occidentale, mais l'avantage de ces auteurs, c'est que il ne s'agit pas d'une culture particulière, mais de la culture, celle de l'universalité, du sens visé, de l'intelligence de la nature pour Strauss, et du sens visé de l'intelligence de la police, de la cité pour Arendt. Cette culture particulière n'est pas une culture au sens ethnique du terme, c'est la culture de l'universel. L'universel de la connaissance pour Strauss, l'universel de la citoyenneté, de la loi écrite pour Arendt. Alors on comprend ici pourquoi j'ai parlé d'humanisme réactionnaire. Il faut, pour le s'en pénétrer profondément, comprendre ce que signifient les charges extraordinairement virulentes commises par les disciples de Strauss et d'Arendt. J'ai nommé le Straussien Alan Bloom, dans par exemple ce best-seller si décrié, « L'âme désarmée » de 1987, et le non moins connu Arendtien Alain Finkielkraut dans « La défaite de la pensée ». Ces livres, ces deux ouvrages, que je tiens pour très Straussien d'un côté et très Arendtien de l'autre, bien que ce soit des pamphlets, plutôt que des ouvrages de théorie philosophique, défendent une idée classiciste, sinon hyper-classiciste, de la culture, en réaction à l'esprit de l'enseignement tel qu'il est conçu ici aux USA et là en France. En tant que tel, ils ont suscité la polémique ou la réaction qu'ils entendaient susciter. En jouant la carte, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la haute culture, au détriment des cultures actuelles, souvent considérées par les esprits faibles, estiment ces auteurs, comme plus vivantes, car plus récentes, que la culture classique. Mais enfin, il faut se tourner, je n'aurai pas le temps de lire son texte, mais vers ce que disait Hannah Arendt, souvent peu suspecte de cet hyperclassicisme, il n'est que de se tourner vers ce qu'elle disait dans la conférence qui s'appelle « La crise de l'éducation », dans l'ouvrage qui s'appelle « La crise de la culture », pour s'apercevoir qu'Arendt n'était pas moins réactionnaire que son disciple Finkielkraut, et pas moins réactionnaire que les Straussiens. Une phrase, page 246 de la traduction française, « Évitons tout malentendu, il me semble, évitons tout malentendu, il me semble que le conservatisme, pris au sens de conservation, est l'essence même de l'éducation. Éduquer, c'est montrer le monde tel qu'il est, vouloir le conserver. Voilà, donc je vous renvoie à ce texte très fort qui montre que du fait de la natalité fondamentale pour les humains, du fait que les humains se reproduisent sans cesse, il y a un risque de dispersion de ce qu'est la tradition humaine. Et qu'au fond, Arendt écrit de manière extraordinaire que un enseignant, c'est quelqu'un qui est fondamentalement conservateur et que par là, il sauve ce qu'il y a typiquement humain dans, finalement, l'humanité. Alors, plutôt que de me livrer à une exégèse de ces deux pamphlets, L'âme désarmée d'un côté et La défaite de la pensée, je voudrais vous montrer que, indiquer en tout cas, suggérer que on trouve chez un autre auteur, qui est original, qui n'est ni straussien ni arendtien, les conditions de possibilité d'un même hyperclassicisme. Cet auteur, c'est George Steiner, le maître S-humanité de Cambridge. Nul contemporain, me semble-t-il, n'a peut-être mieux perçu que Steiner quelles étaient les ressources des classiques dans une perspective classiciste ou hyper-classiciste. Vous vous souvenez de la phrase de Borges qui écrivait qu'on appelle classique une œuvre devant laquelle les générations successives s'inclinent avec une authentique ferveur et avec une mystérieuse loyauté. En dépit de la tendance de chaque génération à considérer que le temps dont elle est contemporaine est fondamentalement nouveau et peut-être même supérieur au temps précédent, eh bien, par les œuvres de l'esprit, le classique, finalement, est une création du passé dont on se souvient. Pourquoi ? Parce qu'il éclipse toutes les créations des cultures contemporaines, des cultures récentes, des cultures dites modernes. Au fond, le classique, l'œuvre de pensée qu'on appelle classique, quel que soit le champ esthétique auquel on se réfère, ou le champ intellectuel auquel on se réfère, l'œuvre classique se montre fatale à toutes les œuvres insignifiantes. Au fond, le classique est même caractérisé par sa tendance, enfin sa propension à défier la tendance naturelle à préférer l'heure présent au passé. Il y a dans le classique, si j'interprète les propos de Steiner, une capacité de résistance et de défiance dans le classique, dans l'œuvre de pensée classique. Il est susceptible, évidemment, de l'œuvre classique est susceptible de délivrer un témoignage du passé. Mais là n'est pas sa potentialité la plus grande. Ce serait un grand contresens de le considérer comme un vestige dans la perspective classiciste ou hyper-classiciste. La fréquentation assidue des classiques interdit de concevoir l'imitation des anciens comme, enfin, dans une perspective patrimoniale, si vous voulez, de reconduction antiquaire du passé dans le présent. Il y a une sorte d'activité du classique pour les hyperclassicistes, au sens où on reconnaît un classique à son activité dans le présent. Alors ainsi, Alan Bloom, dans donc L'âme des armées, à la fin de l'ouvrage, rappelle comment Alexandre Coiré rapportait cette anecdote. Coiré avait donc fui la guerre, il était aux USA, à Chicago. Pour le premier cours de Coiré à Chicago, bon, Coiré, célébrissime historien des idées scientifiques, fait un cours où il parle d'Aristote. Et il donne un petit devoir à ses étudiants, à l'Université de Chicago, on imagine très bien, bon, pour la semaine prochaine, vous commentez cette phrase d'Aristote. On lui rend le devoir, et il y avait un Américain, raconte donc Coiré à Bloom s'en extasie, un jeune Américain qui a réfuté Monsieur Aristote, en croyant qu'Aristote était encore vivant, en 1944. Alors, Coiré et Bloom aussi disent, voilà, ça c'est la magie du peuple américain, cette innocence extraordinaire qui fait que un jeune esprit, pas déformé par les préjugés savants, est capable de comprendre le caractère totalement actif de la pensée d'Aristote et de dialoguer avec M. Aristote dans sa copie. Alors, cela dit, cette magie opère parfois spontanément, mais il faut restituer, quand on lit Steiner, Arendt et Strauss, une médiation qui est un petit peu plus délicate qu'est la médiation de la discipline. Le classique n'est actif qu'à la condition de s'imposer la discipline qu'il impose. On entend par classique une œuvre suffisamment résistante qu'on peut la jouer, qu'on peut la reprendre, qu'on peut éventuellement l'adapter. Mais si vous voulez, sa capacité de résistance est telle qu'on revient. Elle est un standard, si vous voulez. On revient à ce qu'elle est. Il y a une consistance et une autonomie de l'œuvre en elle-même, si vous voulez. Simplement par le biais de la discipline, de l'acquisition progressive par un travail physique même, hein, on imagine quelqu'un qui travaille sur un instrument. Hein. Eh bien, il se produit un effet magique, si l'on en croit la perspective hyper-classiciste de ces humanités réactionnaires, eh bien, il se produit que la subjectivité, en acquérant progressivement le contenu du classique par le biais de la discipline, chèrement payée, se trouve à la fois liée à la tradition et déliée par rapport à la tradition. Elle acquiert son autonomie, plus exactement son authenticité, sur le fond d'une tradition qu'elle comprend et dans laquelle elle s'insère. Une sorte de mouvement assez étrange. Ainsi, Steiner écrit que l'homme cultivé doit reconnaître sa dette à l'égard du classique entendu comme canon, comme mesure du goût. Je vous lis un seul texte de Steiner, que je trouve très beau, tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Réelle présence ». Au vu de la finitude de l'existence individuelle et des autorités institutionnelles, il faut que l'on se mette d'accord sur certaines économies. Il faut laisser de côté ce qui est inférieur ou éphémère. L'existence d'un canon passe au crible et fait un tri qui dirige notre temps et nos ressources de sensibilité vers l'excellence certifiée et illuminée. Le négateur, l'individu qui, par un iconoclasme bizarre ou par marginalité, dénigre les grands crus de notre culture, est un gaspilleur. De nos moyens limités de réception, des avoirs éprouvés et accrédités de la grâce. Alors, les œuvres sont donc, pour reprendre la métaphore cicéronienne, hier expliquée par et remarquablement mise en lumière par M. Fumaroli, la cultura animi vantée par Cicéron est donc le contraire de l'érudition. Les œuvres sont comme des aliments qui ne profitent pas à l'homme, qui ne profitent qu'à l'homme qui sait les digérer, ou plutôt à l'homme qui, les ayant longuement savourés, sait les intégrer pour qu'ils deviennent une partie de lui-même et la meilleure partie de lui-même. Ainsi, Steiner explique que cette notion de réelle présence symbolise l'effet des classiques. Les classiques, selon un jeu de mots sur le thème de l'answer, l'answerability, la capacité de répondre, le classique, estime Steiner, nous oblige à nous questionner, à répondre présent sur les alternatives fondamentales qui se donnent dans l'existence humaine et que lui a décelées et nous suggère, avec sans doute ironie et distance, de savoir vivre à nouveau. Dans l'expérience qu'on peut faire des classiques par le biais d'une discipline extrêmement coûteuse au début, eh bien, se joue donc à la fois l'affiliation à la tradition et la création d'une authenticité, une authentique subjectivité. Ainsi, l'interprétation de Hamlet ou celle du prince de Machiavel doivent accueillir, dit Strauss, le potentiel d'inquiétude des œuvres. Les œuvres produisent sur nous finalement une sorte de décrochage par rapport à la réalité. Alors ici, on pourrait, par exemple, mentionner, mais je ne sais pas bien où va cet exemple, pour tout vous dire, dans quel sens il nous conduit. Il faudrait ici mentionner, par exemple, un film récent, tel que L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, de 2004, dans lequel on voit des jeunes banlieusards qui jouent Marivaux. En jouant du théâtre classique, que se passe-t-il ? Acquièrent-ils une forme de conscience plus aiguë de leur situation ? Ou bien sont-ils sommés, de manière beaucoup plus aventureuse, selon un thème typiquement steinérien, sont-ils sommés de se situer, de se positionner de manière extrêmement aventureuse par rapport à leur présent ? Que leur apporte le classique par rapport au présent ? Est-ce que le classique leur offre la possibilité d'une plus grande acuité ? Ou bien est-ce que le classique indique que leur présent est quand même médiocre par rapport à l'œuvre classique, à la beauté de l'amour de Marivaux, Marivaudage, etc. Voilà, c'est une question que je me pose en regardant le film. Je n'ai pas eu le temps de le revoir, mais en préparant cette conférence, je me suis dit je me dois de regarder ce film de nouveau parce que au fond, le film est équivoque sur ces questions. En tout cas, en laissant de côté ce film, je dirais, pour résumer et terminer ce point, qu'il existe un dialogue secret entre les chefs-d'œuvre du passé et les actions aussi bien que les œuvres du présent. Telle est la conception hyperclassiciste de ces humanités réactionnaires. En effet, la qualité des situations du présent, comme celle des œuvres du présent, se jauge par rapport au classique pour ces auteurs. Au fond, on peut toujours adapter une œuvre de Shakespeare. Ça ne préjuge pas de sa qualité. On pourrait dire par exemple que Shakespeare a été récemment beaucoup adapté au cinéma. On peut voir par exemple que les œuvres de Kenneth Branagh, par exemple Roméo et Juliette, Beaucoup de bruit pour rien et Hamlet, font pendant à un film comme Shakespeare in Love de John Madden. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on a une œuvre classique qui est projetée dans le présent. Écoutez, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on ne peut être à la hauteur des classiques que si l'on assume la complexité qu'ils recèlent. Shakespeare in Love, je ne l'ai pas revu pour l'occasion et je crois que je ne le reverrai pas, est une sorte de bluette où, au fond, Roméo et Juliette sont ramenés à une histoire, une petite histoire d'amour, si l'on veut. Voilà. Tandis qu'il y a chez Kenneth Branagh, authentique auteur qui assume l'exigence, de manière aventureuse, l'exigence propre du classique shakespearien, il y a, au fond, on sent affleurer les ambiguïtés qui émanent du génie shakespearien, qu'il s'agisse des légèretés de l'amour ou des gravités de la politique et de la guerre, hein, dans les œuvres que j'ai mentionnées. Alors, je voudrais maintenant terminer en soulignant une différence entre les deux œuvres, entre celle de Strauss et celle d'Arendt. Il y a chez Strauss la revendication de l'existence d'un ordre des choses immuables qui serait comme une structure d'ordre que l'homme véritablement sage pourrait voir. Et ayant eu cette vision, finalement, l'existence éthique et pratique en découlerait. Il y a donc une sorte de platonisme de Strauss. Symétriquement, il y a dans l'œuvre de Arendt un aristotélisme assumé. Arendt estime que l'homme est un animal politique et que par le biais de la parole politique, on peut se retrouver et créer une communauté d'individus libres. Donc si on remarque les choses, au fond, ce qui revient avec Arendt et Strauss, ce sont les deux positions standards de la philosophie socratique. D'un côté, Platon, de l'autre, Aristote. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on peut maintenant conclure. On peut conclure en élucidant cette notion d'humanité réactionnaire, d'humanisme réactionnaire, que nous avons construit en lisant les deux œuvres. Les humanités réactionnaires correspondent à une entreprise de requalification des anciens qu'il est nécessaire d'entendre sur plusieurs plans distincts, au moins deux plans distincts. Premier plan, il importe de saisir la vision du monde des anciens et de la méditer, car elle est, estime Strauss et Arendt, plus exacte et plus conforme à la condition de l'homme que ne l'est celle des modernes, et que ne l'était celle des modernes, et que ne l'est évidemment celle des contemporains qui sont totalement égarés. Alors, ce plan, précisément, sur lequel on doit entendre leur hyperclassicisme, ouvre la porte à l'exercice de la vie philosophique. Réactionnaire signifie ici que la méditation des humanités nous apprend que la condition temporelle des hommes, leur insertion dans une chronologie, ne correspond nullement à une condition historique. Si on entend par là, comme le faisait la philosophie de l'histoire, chez Hegel en particulier, le fait que les hommes sont soumis à un processus collectif de transformation d'eux-mêmes qu'on appelle progrès. L'œuvre de l'esprit, méditée, finalement, n'impose pas, évidemment, immédiatement à l'esprit ce constat que Socrate, Machiavel, Rembrandt ou Mozart sont nos contemporains. Mais elle impose à l'esprit que tous ces grands auteurs sont, du moins les contemporains, de l'homme qui aspire à une vie philosophique, c'est-à-dire à une vie spirituellement riche, une vie qui s'accompagne de la discipline de l'étude. Donc vous voyez, ces deux philosophes requalifient la discipline philosophique sur un mode classique. D'où le fait que le mot réactionnaire possède aussi un autre sens. L'homme qui s'adonne à cette discipline intellectuelle se trouve fatalement ne pas adhérer à son époque. Sa conscience et sa sensibilité ne sont pas totalement insérées dans son époque. C'est une sorte de démenti physiquement apporté à tout sociologisme. Les mœurs, les idées dominantes de ses concitoyens, l'homme éduqué les comprend sans totalement les partager et surtout sans être dominé par elles. Il est capable de les juger et son jugement est adossé à des règles qui n'ont pas leur origine dans le temps dont il est contemporain et de ce fait, l'homme discipliné, l'homme éduqué, est capable, il est susceptible de passer les idées dominantes de son temps au crible d'un jugement, donc sans compromis. Ce qui fait que, pour l'hyperclassicisme, l'esprit formé à la haute culture peut par conséquent se montrer fort désagréable vis-à-vis, au fond, de la culture contemporaine, hein, de la culture dont il est contemporain. En tout cas, cet homme-là ne croit pas, d'une manière générale, que la culture évolue, qu'elle progresse dans le bon sens. Il est tenté, toujours, d'affirmer que c'était mieux avant. D'où le deuxième plan, sur lequel il faut entendre la notion d'humanité réactionnaire. Les œuvres de l'esprit sont engendrées par les classiques, possèdent des vertus éducatives incomparables, même pour l'homme qui n'aspire pas à un type de vie philosophique. C'est en effet sur l'honnête homme, le kalos kagathos, dont Strauss reprend le thème, la figure, c'est sur l'honnête homme pour Strauss et sur le citoyen pour Arendt, citoyen commun, que les œuvres de l'esprit du passé sont susceptibles, si on les cultive, de permettre à chacun d'aiguiser son jugement et de se rendre actif par l'esprit. La vertu éducative des œuvres se traduit donc de manière axiologique sur la question des valeurs, sinon morale. Les individus éduqués refusent le relativisme culturel généralisé. Ils osent proposer des hiérarchies. Mozart est supérieur à Madonna, comme le rappelle Finkielkraut. Ils osent même différencier les cultures au pluriel au sein du champ, au sein de l'espace social. Certaines cultures sont peut-être barbares. Donc, Horresco reference. La réaction ici, humanité réactionnaire, provient du fait que l'hyperclassicisme ose qualifier le monde qui l'entoure en termes de beau et de laid, ou plus exactement de beau ou d'insignifiant. Le contraire du beau, c'est l'insignifiant. De juste et d'injuste, de bien et de mal. Se doter de critères de jugement engage donc la personnalité dans la voie d'une existence régie par les valeurs. Alors évidemment, je ne l'ai pas montré, mais les choses sont assez différentes pour Strauss et pour Arendt, puisque pour Strauss, les valeurs en platonicien sont adossées à un ordre naturel des choses, c'est le droit naturel, tandis que pour Arendt, les valeurs se refondent perpétuellement dans une pratique, si vous voulez, collective de l'événement, par le biais de la société, d'une société régie par l'Öffentlichkeit kantienne, la publicité, le fait qu'on discute sur le fond des choses, de la valeur des événements, des œuvres, etc. Alors, je voudrais finir en attirant votre attention sur le fait que Arendt et Strauss, paradoxalement, se trouveraient en accord avec le terrible constat, le terrible diagnostic énoncé par Peter Sloterdijk, au début de ce petit ouvrage qui s'appelle « Règles pour le parc humain ». Sloterdijk, auteur typique du post-humanisme, estime que l'humanisme est fini du fait que la tradition humaniste était composée de livres qu'on se transmettait comme des grosses lettres, qu'on écrivait pour des amis qu'on ne connaissait pas. Alors, cette tradition est désormais finie, dit Sloterdijk. Arendt et Strauss estime effectivement que cette tradition a connu brutalement, il y a deux ordres d'analyse possibles, une rupture brutale avec l'avènement du totalitarisme et une sorte de désagrégation progressive avec l'étiolement du thème rationaliste dans la modernité, sa transformation en technologie par exemple, en science appauvrissant la nature et en maîtrise sur l'homme, maîtrise totalitaire sur l'homme. Il y a donc une faillite de l'humanisme historique. Arendt et Strauss seraient d'accord avec cela. Cependant, pour dire les choses rapidement, il me semble que Strauss et Arendt recomposent une variante qu'on pourrait nommer, non pas, par exemple, l'humanisme nostalgique, mais l'humanisme politique. Voici comment on pourrait entendre cette hypothèse avec laquelle je terminerai mon propos. Leur traditionnalisme culturel débouche sur un classicisme ou un hyperclassicisme. En même temps, ils se donnent eux-mêmes comme les tenants d'une société libérale, c'est-à-dire non féodale. Ni l'un ni l'autre, par exemple, ne pensent que la tradition se suffit elle-même, si on ne la revisite pas par la discipline et par l'œuvre de l'esprit qui éclaire la pratique. Au fond, implicitement, évidemment, ils sont suspects d'une thématique qui les rend réellement réactionnaires, je crois. C'est qu'il y a vraisemblablement pour eux, Arendt ne se prononce pas là-dessus, des inégalités de talent dans la capacité qu'ont les individus à apprécier une grande œuvre. Voilà, il y a évidemment une sorte d'inégalité. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette inégalité n'est jamais théorisée comme telle. Arendt et Strauss, étant des libéraux au sens américain du terme, sont bien entendu du côté de l'égalité des droits. Chacun doit avoir accès à la haute culture. Mais dans les faits, peut-être qu'effectivement, certains préfèrent Madonna à Mozart. Bon, Et il y a sûrement pire que Madonna, d'ailleurs. Alors, simplement, ce que veulent faire Arendt et Strauss, me semble-t-il, c'est de politiser, en quelque sorte, la discipline esthétique. Il s'agit pour eux de penser une communauté des hommes au goût éclairé, vivifié par les classiques. La finalité de cette entreprise, dans cet humanisme politique, n'est autre que d'élargir la sphère des gens éduqués capables de se transmettre ces grosses lettres que sont les livres dans une sorte, comme le dit très bien Alan Bloom par ailleurs, d'érotisme de la philia toute platonicienne. Il me semble que ces auteurs, sur lesquels on peut finalement avoir la dent un peu dure en disant ce sont des réactionnaires, etc., des gens hyper classicistes par leur goût, qui n'accordent pas sa chance à aux cultures contemporaines, eh bien ces auteurs s'inscrivent d'une certaine manière dans un projet d'une générosité inouïe qui revient finalement à mettre en circulation, continuer à mettre en circulation des œuvres au potentiel de créativité extraordinaire. Je vous remercie.
Parfait. Alors, pour les questions, qui ? Si j'y vois quelque chose. Ah, peut-être ici, je ne vois pas d'ailleurs, mais qui se... Voilà.
Je voudrais poser une petite question à propos de la définition du mot science, parce qu'effectivement, on parle des sciences exactes, comme la physique, par exemple, ou la biologie, mais le terme de science sociale est tout de même un peu étrange, parce qu'au fond, les lois de la physique, par exemple, sont fixes. Hein. Qu'entendez-vous par science au sens de science sociale ? Parce qu'une société évolue, donc c'est une société est une variable historique, tandis qu'il est clair que les sciences physiques, les lois de la physique ne changent pas, sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Par exemple, les lois de Newton sont encore vraies aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Que pensez-vous donc de l'utilisation du mot science dans l'expression science humaine, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un objet dont les lois sont éternelles en quelque sorte, comme en physique, voyez. C'est tout. Ouais.
Merci pour votre question. À vrai dire, je serais mal placé pour vous donner une définition positive ou à laquelle j'adhérerais des sciences humaines et sociales, du fait que mes auteurs de ce soir dénoncent la possibilité d'une science sociale. Il se trouve que dans l'histoire des idées modernes, la sociologie s'est imposée comme une science sociale qui est basée sur l'étude expérimentale du comportement humain. D'abord la psychologie, hein, dans les années 1890 ou même avant 1880 avec Théodule Ribot, ensuite la sociologie avec Durkheim, et ensuite l'anthropologie avec Marcel Mauss, selon des modalités assez différentes. Eh bien, je ne vais pas revenir là-dessus, mais se sont imposées comme des disciplines qui entendent, pour prendre un terme qui peut être critique, dans le fil des auteurs que je vous expose ce soir, rendre compte avec exactitude des comportements humains. Alors, précisément, une science sociale et humaine est-elle possible ? Y a-t-il ou non une troisième culture, comme on dit ? On peut ouvrir un colloque sur cette question ? Mais ça nous éloignerait du thème de ce soir. En tout cas, vous voyez que les auteurs que j'ai mentionnés, tous, hein, les cinq auteurs que j'ai mentionnés, Strauss, Arendt, Bloom, Finkielkraut et Steiner, ces cinq auteurs se mettent du côté des humanités contre la science sociale. Au fond, ils critiquent davantage la science sociale et humaine que les sciences exactes, même si celles-ci, pour eux, en tout cas pour Strauss et Arendt, sont victimes d'avoir imposé à l'esprit humain le schéma ou le schème expérimental comme étant le seul mode de rapport à la nature.
Autre question ? Allez-y. Venez, on vous donne un micro, s'il vous plaît.
Tout à l'heure, je crois que j'ai bien noté, vous avez dit que les enseignants, et l'enseignement donc, c'était l'étude des classiques. Alors, ça pose question pour l'éducation nationale, qui pourtant...
Attendez, dans le micro, s'il vous plaît.
Qui pourtant s'appelle éducation nationale et pas enseignement national. Alors, l'enseignement, si c'est pas l'étude des classiques, si c'est l'éducation comme vous en parlez, ce serait s'insérer dans le social. Alors, comment voyez-vous, vous, ce qu'on appelle en ce moment l'éducation nationale, alors que de mon temps, ça s'appelait l'instruction publique. Comment concilier les deux, ou enseigner les deux, ou éduquer les deux?
Dans...
Votre position personnelle.
Oui, ma position personnelle.
Vous avez mis en cause Finkielkraut, alors vous aussi, mettez-vous en question.
Non, en situation, vous voulez dire. Je me mets en situation en vous répondant qu'en tant qu'enseignant de philosophie, il me semble que la connaissance des classiques... si vous voulez, moi je suis un interprète autorisé de Machiavel pour l'institution, comme l'a rappelé Yves Michaud. En tant qu'interprète autorisé, je suis comme finalement quelqu'un qui devrait exécuter une partition devant des jeunes gens qui connaissent pas cette œuvre, afin de transmettre... finalement la capacité à jouer cette partition. Le but d'un enseignant, c'est l'autonomie du jugement. En tant qu'enseignant de philosophie, je ne suis pas persuadé que je transmets des connaissances. En revanche, j'éveille à des classiques. Vous vous doutez bien que, en faisant une conférence sur Arendt et Strauss, il y avait derrière un intérêt personnel. Cet intérêt personnel n'est pas purement informatif. Il est que, il me semble quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent. Dans la capacité qu'a la philosophie à créer des subjectivités plus denses. Un philosophe ou un apprenti philosophe, c'est quelqu'un qui s'interroge sur son authenticité. Eh bien, il me semble que dans ce processus, la culture du classique joue un rôle fondamental. Alors, c'est peut-être aussi la place de l'enseignement philosophique si particulier, si bizarre, si toujours contesté, notamment en classe terminale, que d'assumer le classicisme. Tandis que, au fond, dans une perspective straussienne et arendtienne, les éducations nationales des différents pays, finalement, sont victimes d'une illusion moderniste. Elles jouent plutôt les sciences humaines et sociales, la connaissance de la réalité par des moyens d'expérimentation, que la connaissance des classiques. Alors, je vous renvoie notamment ici à ce que dit Blum. Blum, vous savez, dans L'âme des armées, dit voilà, un jeune Français connaît du Hugo, du Lamartine, du Descartes, du Pascal. Tandis qu'un jeune Américain, il n'a plus tout ça, du fait du modernisme de notre tradition d'enseignement. Eh bien, alors Blum estime que ce qui reste, c'est peut-être la Bible pour les jeunes Américains. Alors évidemment, dit comme ça, c'est radical, si vous voulez. Mais enfin, quel est le canon qui permet de juger? Eh bien, il me semble, à titre personnel, si vous voulez, j'ai pu remarquer que permettant à des jeunes gens d'interpréter chacun à leur manière, bon an, mal an, les partitions de Machiavel, j'éveillais quelque chose chez eux que je ne leur transmettais pas, littéralement. C'est pas une connaissance que je leur transmettais. Connaissance susceptible d'être périmée. C'était plutôt un standard que je leur permettais d'interpréter. D'ailleurs, j'ai remarqué que Steiner a la même émotion que moi quand il dit ça, quand il a découvert pour la première fois qu'il avait ce pouvoir sur les autres, de leur permettre d'accéder à des standards. Voilà. Donc, vous voyez, moi, en tant qu'enseignant, en tant que philosophe aussi, en tant que philosophe, j'ai l'impression de me mouvoir dans une tradition qui se constitue évidemment d'un dialogue par le biais d'une discipline avec des classiques. Alors en tant qu'enseignant, je suis, comme le dit Arendt, conservateur. J'essaie de transmettre cette capacité. Simplement, ce faisant, vous voyez, pour ça je ne peux être que nuancé, je ne désespère pas d'inventer des concepts. Après le conservatoire, ou au sein même du conservatoire, il y a bien le moyen de créer sa philosophie, d'engendrer sa partition. Alors vous voyez, je suis peut-être effectivement hyper classiciste. Vous m'amenez à me poser vraiment la question, et c'est très indélicat de votre part.
Bon, bah, je crois qu'on va rester sur cette question
existentielle,
parce que c'était parfait pour conclure. Merci beaucoup Thierry Ménissier.
Merci.